Et bonjour à tous. On retrouve cette émission mensuelle Histoire d'Archives et pour une fois, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu sur notre antenne le directeur des archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, monsieur Jean-Christophe Labadie. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous faire le bilan de 2017.
Exactement, oui. Donc d'abord, j'ai évidemment beaucoup de plaisir à revenir, hein, mais ne croyez pas qu'il y avait des raisons autres que celles qui étaient liées au travail, hein, évidemment. Mmh. C'était Madame Franek fait les choses très très bien et elle reviendra. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est à la fin de l'année, et à la fin de l'année, en général, ben, on fait refond à peu près toutes les personnes et toutes les entreprises, on prépare notre bilan. Donc on est en train effectivement de regarder quelle a été notre activité en 2017, ce qui a bien marché, puis ce qui a bien moins marché, et évidemment en tirer les leçons. Alors vous savez que dans les archives, il y a plusieurs volets. On est d'abord des gestionnaires d'archives, c'est-à-dire qu'en fait, on conserve des archives qu'on reçoit, qu'on appelle les versements d'archives, et donc on va tout d'abord faire un bilan assez dur, assez sévère sur les archives, c'est-à-dire en fait tout simplement quelle était l'activité de notre service, quel a été le niveau de réception des archives, dans quelles conditions sont-elles arrivées, et puis on va aussi regarder ce qu'ont fait les services qui produisent les archives, hein, donc les administrations, les collectivités territoriales, etc., pour voir ce qui a été éliminé, parce qu'on est toujours très attentif à la question de l'élimination des archives, hein, car c'est un sujet évidemment important pour un archiviste, car il faut voir d'une part que si en général on n'élimine pas, on se crée des problèmes quant à la conservation des archives, et puis d'autre part quand on élimine en fait une trace de l'activité de l'administration. Donc c'est évidemment, il y a des enjeux importants et donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est pour ça que la réglementation est très claire sur la question. Quand une administration désire éliminer des archives, eh bien, elle doit en demander l'autorisation aux archives départementales. Et pour vous donner un ordre d'idée, on élimine à peu près chaque année environ entre 1,2 km et 1,4 km d'archives, ce qui est quand même assez considérable, hein, ça, on ne se rend pas compte. Hein. Alors je rappelle toujours, hein, le système de calcul, hein, c'est tout simplement la largeur de la boîte. Hein, une boîte d'archives, ça fait 10 cm en général. Donc vous pouvez multiplier, hein, par 10 le métrage et vous obtenez le nombre de boîtes éliminées dans un département qui est un département petit. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Parallèlement, on reçoit environ 250 mètres d'archives linéaires chaque année. Donc, vous voyez, le ratio, c'est on élimine beaucoup plus qu'on le conserve. Alors cette année, on aura aussi quelque chose d'assez particulier parce qu'on a travaillé beaucoup avec l'hôpital de Digne. Les hôpitaux sont d'énormes producteurs d'archives, c'est considérable, enfin c'est vraiment, on ne se rend pas compte. Et donc là, on aura, rien que pour l'hôpital de Digne, autour de 800 mètres linéaires d'archives, donc qui vont être détruites en application de la réglementation, sachant qu'on fait très attention à ce qu'on détruit et on conserve, par exemple, tout ce qui concerne les transfusions sanguines, etc. Vous savez que la réglementation suite au sang contaminé avait été modifiée, donc il y a des domaines, évidemment, où là, on conserve pour avoir des traces, si jamais il y avait besoin de revenir à des dossiers anciens, à des transfusions anciennes, vous voyez, dans le cas de contentieux ou dans le cas de...
Alors combien de temps vous pouvez garder les archives médicales ?
Alors les médicales, en fait, quand on n'élimine pas, on conserve ad vitam aeternam. Vous voyez, donc, alors c'est un problème, hein, parce que je viens de finir un livre qui a été fait par une ethnologue, je suis en train de sortir du sujet, là, mais enfin,
ouais.
Voilà, mais bon, je suis en train de lire, donc, de finir de lire un livre qui a été écrit par une ethnologue qui s'est intéressée donc à la vie justement d'un service d'archives départementales, hein, du centre de la France, qui met deux choses en évidence en fait, qui met un, la masse d'archives, et deux, le temps à conserver. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un système cumulatif, hein, on additionne les kilomètres, les centaines de mètres chaque année, pour les conserver de manière définitive. Donc vous voyez le problème que ça pose. C'est-à-dire qu'en gros, nos services sont sans arrêt condamnés à grossir, jusqu'à ne jamais finir de grossir. Vous voyez. Donc alors, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on aura des systèmes plus simples pour conserver. Hein. Peut-être que avec la numérisation, mais c'est un peu... C'est assez lointain, on va dire. On pourra peut-être conserver autrement les archives et donc ne plus avoir des gros bâtiments, mais des gros serveurs, parce que le système sera le même. Vous savez qu'actuellement, il y a une réflexion aussi au niveau du ministère de la Culture, justement sur le sort des archives. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne conserve pas trop ? Voilà, donc ça, c'est un débat. Hein, c'est la notion, ce qu'on appelle la notion d'archives essentielles. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui est important ou pas ? Et évidemment, c'est très compliqué de répondre à cette question, puisque comment savoir aujourd'hui ce qui sera utile à l'historien dans 30 ans ? Parce que vous savez qu'on conserve pour deux raisons. On conserve pour des questions d'histoire, mais on conserve aussi pour des raisons de droit. Alors pour les questions de droit, on peut assez peut-être simplement définir ce qui est utile ou pas. Mais pour les questions d'histoire, comment savoir quelles seront les méthodes des historiens dans 50 ans et donc quelles seront donc les archives qui seront utiles. Donc l'idée, c'est évidemment, on détruit beaucoup plus qu'on conserve. On détruit des choses qui, effectivement, paraissent redondantes, vous voyez, ou peu utiles.
Alors combien êtes-vous à pouvoir décider, parce que c'est une décision pas facile?
Alors, en fait, c'est le directeur qui décide.
D'accord.
Voilà. Alors, en réalité, concrètement, évidemment, je ne prends pas tous les... Alors, en fait, une administration qui veut détruire remplit ce qu'on appelle un bordereau d'élimination, c'est-à-dire une demande d'élimination en indiquant ce qu'elle souhaite détruire. Et dans mon service, évidemment, il y a des archivistes qui sont spécialistes dans leur domaine, et c'est eux, évidemment, qui analysent la situation par rapport à la réglementation, hein, puisqu'il y a une réglementation. Et puis ensuite, c'est le directeur qui signe, donc qui décide, en fait. Alors, on peut garder ce qu'on pourrait détruire, évidemment. Quelquefois, il y a des choses qui paraissent intéressantes au point de vue local, vous voyez, qu'on pourrait tout à fait détruire et qu'on décide de conserver. Par exemple, une année charnière, vous voyez, une année importante pour le département, un document qui est lié à cette année, à un événement particulier, au lieu de le détruire, on se décide de le conserver. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. En revanche, on ne peut pas détruire ce qu'on doit conserver. C'est une règle. Voilà. Alors, quelquefois, cette règle s'applique un peu moins quand on échantillonne, parce que pour résoudre le problème de la masse, on se dit, au fond... la réglementation nous autorise à faire des échantillons. C'est-à-dire qu'en gros, on prend une année, une lettre alphabétique, etc. Alors, en se disant que cet échantillon, ça suffira pour l'historien, dans l'avenir, pour décider, pour s'appuyer sur ses archives. La question, c'est que dans les petits départements, c'est très difficile d'échantillonner parce que la taille générale n'est pas très grande. Vous avez, vous avez des dossiers, par exemple, qui arrivent, vous avez 10 mètres, vous allez échantillonner, vous allez garder quoi, 50 cm. Et quel intérêt qu'on garde ? Alors, souvent, on se dit, au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas tout garder ou alors tout éliminer, puisque, faire un échantillon de 50 cm, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, garder 10 mètres, finalement, quand vous en rentrez 250 mètres, vous voyez, c'est pas énorme, vous voyez, c'est pas... Voilà. Donc, voilà. Donc il y a tous ces débats qui sont posés. Ce débat-là, ces questions-là se posent toute l'année. Vraiment, c'est vraiment... Et là, effectivement, vous voyez, dans notre aspect bilan et perspective, on est en train de réfléchir, effectivement, à ce qu'on a actuellement dans nos magasins et qu'on pourrait éliminer tout à fait réglementairement. On a conservé des choses en pensant que ça pouvait être utile, et puis on s'aperçoit que c'est jamais consulté, que finalement, ça présente peu d'intérêt, que des documents qui sont rentrés depuis sont peut-être plus intéressants que ceux qu'on avait. Et comme on a des problèmes de place, comme tous les services d'archives à peu près, on se pose la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas utile, justement, de détruire. Et là, on a décidé de détruire certains échantillons qu'on n'était pas obligé de conserver. En particulier dans le domaine fiscal, déclaration de revenus en l'occurrence, en se disant que de toute façon, notre échantillon n'est pas significatif, il présente peu d'intérêt, donc pourquoi le conserver ? Donc ça, c'est le premier aspect du travail, c'est dans les bilans, c'est effectivement la question de la gestion des archives publiques par les administrations et la question des versements. On a évidemment aussi... pour que les administrations puissent faire leur travail, on a aussi ce qu'on appelle des actions de formation. Cette année, on a beaucoup travaillé avec les services fiscaux, justement, pour sensibiliser les cadres, en l'occurrence, justement aux questions d'archives. Et il y a un gros travail qui est réalisé grâce, d'ailleurs, pas seulement aux archivistes, mais aussi aux agents des services fiscaux qui font un travail formidable, justement, pour régler... on va dire, à la fois des conditions de conservation et ces fameuses éliminations. Vous savez, la tendance générale, c'est de dire qu'au fond, les archives, ça arrive à la fin. Vous voyez ? Donc, on remplit les travées, on remplit les tablettes, et puis, à un moment donné, il y en a partout, et on ne sait plus où les mettre. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'on se dit, tiens... il y a des archives départementales et ça serait peut-être utile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. En général, on nous appelle, donc on fait un peu les pompiers, vous voyez. Voilà. Or, évidemment, nous, on n'aime pas travailler comme ça. C'est pas notre... Donc, on essaye justement de travailler plus en amont pour justement sensibiliser tous les agents et tous les responsables, surtout, vous voyez, responsables des archives, parce que ce sont eux les responsables de leur gestion des archives, de voir justement comment on peut améliorer justement le travail en amont pour éviter d'avoir d'énormes bouchons, vous voyez, absolument considérables à la fin, où tout le monde est un peu... vous voyez, en fait, tout le monde fait des gros yeux en se disant, mon Dieu, mais que faire de tout ça, ouais, voilà. Donc, et puis après, évidemment, c'est très compliqué hein, de reprendre tout, quand les boîtes ne sont pas bien identifiées, etc. Donc là, on a fait un gros travail avec les services fiscaux de formation, qui a d'ailleurs commencé déjà l'année précédente, donc d'information, de formation et de sensibilisation. Et cette action, évidemment, se prolonge concrètement. C'est-à-dire qu'en réalité, on a eu des versements des services fiscaux et on a eu des éliminations importantes de ce côté-là. Et je crois que ça, hormis le cas de l'hôpital hein, que j'évoquais tout à l'heure, je crois que c'est vraiment, ce sont les services qui ont fait le plus d'éliminations cette année. Vous voyez, donc là, voilà. Donc chaque année, on essaie justement de travailler vraiment avec une administration pour... on avait fait ce même travail avec... avec la justice, hein, quand il y a eu le déménagement et le reménagement au palais de justice, on a travaillé beaucoup avec la direction du greffe pour justement régler ces problèmes-là. Donc là aussi, c'était un gros chantier qui s'est très bien terminé. Donc voilà, donc on essaye toujours hein, de vraiment d'être en contact avec les services pour éviter l'effet pompier. Voilà.
Et vous êtes beaucoup trop jeune pour pouvoir regretter d'avoir brûlé des archives. Ça, on le saura dans 300 ans, s'il y avait des archives qui ont été détruites et qui auraient dû être gardées.
Alors, en fait, vous savez que dans l'histoire, si on prend l'histoire, on a déjà détruit volontairement les archives. La Révolution qui a... créer, alors c'est un paradoxe, hein, parce que la Révolution a créé les services d'archives, enfin, il existait les services d'archives, évidemment, hein, mais qui n'étaient pas un système, en fait. Hein. La Révolution a vraiment créé, fondé le système actuel des archives, hein, d'abord en créant les archives nationales, puis en 1796, les archives départementales, mais en même temps, elle a autorisé la destruction de tous les documents qui rappelaient, en fait, l'oppression seigneuriale et féodal. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, hein, c'est détruisons les preuves hein, de tous les droits des seigneurs ou des féodaux pour ne pas, si jamais les choses changeaient, qu'ils puissent revendiquer. Voilà. Donc on a détruit beaucoup, en fait. Hein, voilà. C'est vraiment un paradoxe. Hein, mais je crois que, de toute façon, la destruction va avec, justement... comment dire, je crois que ce sont deux problèmes liés, en fait. Quand on commence à archiver, on se pose évidemment la question de qu'est-ce qu'on va garder. C'est une question fondamentale. Et la Révolution, alors, pour des questions idéologiques et politiques, avait décidé de détruire certaines pièces et d'en conserver d'autres. Par exemple, tout ce qui était du domaine... on a de très belles collections d'abbayes, etc., hein, d'établissements ecclésiastiques, grâce à la Révolution. Puisque avec la nationalisation des biens du clergé, tout ça est rentré. Et donc, une grande partie a pu être sauvée et conservée. Vous voyez, hein, ce qui était en fait privé est devenu public. Voilà, donc c'est une question fondamentale. Voilà, c'est vraiment... et on ne peut pas penser l'archivage sans... La destruction, ce qu'on appelle, nous, l'élimination. C'est vraiment fondamental. C'est pour ça que quand je fais mes inspections d'archives communales, j'explique toujours qu'en fait, il est très important d'éliminer, hein, d'éliminer en application de la réglementation, parce que c'est comme ça qu'on conserve le mieux, en fait. Hein. On sait ce qu'on a. D'abord, on a besoin de moins de place. Hein, donc, on peut bénéficier de la place pour les autres années. Et puis, on gère beaucoup mieux. On identifie... De fait, on a dû identifier convenablement ce qu'on a dû garder. On a dû identifier, parce que quand on détruit, on dit ce qu'on détruit aussi, vous voyez. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi une protection pour l'agent. Il applique la réglementation, et si jamais quelqu'un lui demandait une pièce, il peut toujours reposer le bordereau de destruction en disant, voilà, ça a été autorisé en application de la réglementation, donc vous ne pouvez pas me demander cette pièce, elle n'existe plus. Vous voyez. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est vraiment...
Donc vous choisissez d'éliminer dans votre département.
Oui.
Est-ce que au niveau du gouvernement, vous alertez aussi
Alors en fait, on applique la réglementation tout simplement.
Oui.
Que, voilà, nous au niveau, en fait, tous les départements agissent de même. On a tous des règles qui sont communes. Et donc, on applique cette réglementation. Après, je vous dis, la seule marge de manœuvre qu'on a, c'est conserver ce qu'on pourrait éliminer. C'est vraiment... voilà. Après, la deuxième question, c'est est-ce que toutes les administrations, tous les producteurs d'archives publiques, en fait, appliquent eux aussi la réglementation? Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà, des fois. Mais souvent, c'est par méconnaissance. Hein. Alors, c'est pour ça que ce problème se pose. C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, dans les communes, ben, en fait, on garde tout. Parce qu'on ne sait pas, justement... pour éviter, vous voyez, tout problème, toute erreur, et ben le plus simple, c'est tout garder, vous voyez, hein, ou un peu comme chez vous, vous voyez, voilà, je ne sais pas trop ce que je dois jeter, donc est-ce que je dois garder ? Ben le mieux, c'est tout garder. Voilà. Et donc justement, nous, quand on fait nos visites en archives communales, on explique qu'évidemment, il faut qu'il est tout à fait possible d'éliminer certaines choses. Par exemple, les factures, les factures des gommes et des crayons, vous voyez, ça s'élimine au bout de 10 ans. Ben, pourquoi conserver des factures de gommes et de crayons, vous voyez, voilà. En revanche, évidemment, la facture du bâtiment construit à côté, ça se garde. Mais ce n'est pas au même endroit. Voyez, on ne garde pas au même endroit quelque chose qui concerne un lourd investissement que du fonctionnement. Vous voyez. Donc voilà.
Et ça, c'est chaque année que vous faites un tri?
Alors, en fait, c'est chaque année, oui, bien sûr, oui, chaque année. En fait, le plus souvent, il y a plusieurs façons de gérer ces archives, en fait. Hein. Soit on le fait en continu, ce qui arrive certaines fois, mais en général, le plus simple, c'est quand même, vous voyez, c'est un peu le bilan, quoi. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on range. On range les dossiers. Par exemple, une commune va ranger ses factures, va ranger sa correspondance, vous voyez, etc. Voilà, donc le mieux, c'est de le faire à ce moment-là. Et on recommande toujours de faire des actions ponctuelles d'un ou deux jours, vous voyez, en disant, voilà... Vous prenez vos archives, vous rangez vos archives de l'année, vous éliminez celles qui sont éliminables. Et normalement, ça fait un tour. Si vous éliminez tous les 10 ans, tous les ans, vos archives, vos factures qui ont plus de 10 ans, évidemment, vous faites un tour. Et en fait, vous remplacez la boîte, vous voyez, que vous éliminez par la boîte que vous créez. Voilà. Donc, du coup, ça permet de bien gérer ces archives. Voilà. Ça, c'est un travail vraiment. C'est un travail qu'il faut le faire et qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour faire. Ouais, parce qu'après, c'est vraiment la panique. Il y en a partout. Vous savez plus. Vous avez dans les placards, vous avez au-dessus des armoires, vous avez les locaux sont saturés totalement. Et donc après, ça devient très compliqué. Quoi.
On rappelle combien de personnes travaillent aux archives départementales ?
Alors en fait, on est 20.
20.
Voilà. Mmh. Ouais, donc on a un gros service. Hein, c'est un service important. 20 personnes, dont la plus grande partie, justement, se consacre à la gestion des archives. C'est-à-dire qu'on a, plusieurs volets, on a cette gestion des archives, on a la question de la conservation, et puis on a la question de la communication. Voilà. Donc dans la première partie, donc gestion des archives, vous avez nos archives à nous, on gère nos archives, mais on gère aussi les archives des autres, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc on a ces deux aspects qui prennent beaucoup de temps, effectivement, et qui nécessitent des compétences particulières. C'est là qu'on a vraiment des archivistes, hein, donc qui ont... Après, on a effectivement, hormis le cas des archives, on a effectivement le volet qui est de plus en plus important, qui est l'action culturelle. Hein, nous, dans le département, on essaye de développer le plus possible cet aspect-là. Ça marche plutôt pas mal, puisque cette année, en termes d'élèves étudiants, alors de tous les niveaux, hein, de l'école élémentaire jusqu'au supérieur, on a touché directement dans des ateliers, dans des visites, etc., plus de 2200 élèves. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est notre record absolu. Il y a 3-4 ans, on était à 1300, on trouvait déjà que c'était beaucoup, vous voyez. Donc, donc ça veut dire que des fois, on n'imagine pas comment ça peut évoluer. Là, je regardais justement, parce qu'on était en train un petit peu de travailler là-dessus ce matin, je regardais avec... l'une des deux responsables du service éducatif, le planning pour l'année prochaine, eh bien, oui, on en est à prendre des rendez-vous déjà pour avril. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, janvier, février, mars, c'est plein. Oui, donc on est plutôt bien parti pour l'année prochaine, donc pour maintenir ce niveau, hein, puisque pour nous, c'est important, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'on perd nos lecteurs. Vous savez que grâce ou à cause de la mise en ligne d'un certain nombre d'archives, en particulier les archives qui intéressent les généalogistes, les archives, donc l'état civil, registres paroissiaux, etc., eh bien, les gens ne viennent plus, ne viennent plus dans les services. Et donc, ils travaillent sur Internet. Donc, du coup, on est autour de 550 lecteurs par an. Hein, on appelle les lecteurs. Hein. Mm-hmm. Donc, vous voyez, 550, c'est pas beaucoup. C'était trois fois plus il y a 15 ans. Vous voyez, donc, et on pensait d'ailleurs, il y a 15 ans, qu'il y en aurait de plus en plus. Vous voyez, pour vous dire qu'on n'avait pas tellement bien compris la révolution Internet. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas encore tout à fait là. Donc, du coup, on essaie de compenser, justement, hein, notre... Alors, on est à l'étiage. Hein. Là, on ne descend plus. Depuis 2 ans, on est à 550. Donc, ça veut dire qu'on va dire qu'on est, vraiment au niveau le plus bas et que, vraisemblablement, on perdra plus beaucoup de personnes. Donc, notre objectif, c'est évidemment de compenser cette baisse par, justement, une augmentation de nos actions en direction des publics scolaires. Hein. Je crois que quand même, on est dans l'air du temps. Hein. Quand on écoute un petit peu ce qui se fait, se dit à tous les niveaux, on comprend bien que l'éducation, c'est un élément fondamental. Moi-même, en tant qu'enseignant, j'y crois, ben forcément. Hein. Voilà. Et donc, on essaie vraiment de développer cet aspect-là. Et d'ailleurs, on a renforcé notre service, parce qu'il n'y avait qu'un agent qui s'en occupait jusqu'à cette année. Et puis maintenant, on est à un poste et demi, hein, puisqu'on a une personne supplémentaire qui s'occupe aussi de la bibliothèque des archives, hein, mais qui a la moitié de son temps dévolu à des actions éducatives. Donc, vous voyez, on renforce cet aspect-là. On déplace un petit peu, vous voyez, les fonctions des uns et des autres. On a toujours nos archivistes, là on ne peut pas les changer, hein. Il faut vraiment les garder, parce que ça c'est obligatoire. Mais après, dans les marges, vous voyez, sur les marges, on arrive à modifier un petit peu, et on est donc à 2200. Ce qui est important aussi, ce n'est pas simplement le nombre, évidemment, mais c'est aussi la durée. Hein. Ce sont pas des visites d'un quart d'heure, hein. c'est au minimum un atelier, hein. C'est-à-dire que c'est au minimum une heure et demie, deux heures. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, un travail sur table à partir de documents d'archives avec des questionnaires qui ont été élaborés par le service éducatif et par l'enseignante hein, du service éducatif. Car vous savez qu'on a une enseignante hein, qui vient tous les vendredis, hein, qui vient tous les vendredis aux archives départementales pour préparer justement ces ateliers. Les publications aussi, puisqu'il y a une publication Archiclasse hein, qui est proposée, donc sur des thématiques. En général, on en fait 3 ou 4 par an. Voilà, et donc, c'est pas simplement un effet, vous voyez, on essaie de faire vraiment un travail de fond. Et souvent, d'ailleurs, quand les classes viennent, comme elles viennent souvent de loin, elles associent en fait à un atelier qui peut durer une heure, à une visite des archives, hein, car évidemment, la plupart des gens n'imaginent même pas ce que c'est qu'un service d'archives. Hein,
quand vous parlez d'une enseignante qui vient tous les vendredis, oui. C'est une enseignante de chaque collège.
Non, c'est toujours la même. En fait, il y a toujours une enseignante oui, qui est mise à disposition hein, par le rectorat, hein, qui enseigne au collège Borély et qui donc enseignante d'histoire-géographie et qui vient tous les vendredis donc préparer, enfin soit programmer. Hein, donc programmer les actions, préparer aussi donc tous les supports pédagogiques, car évidemment l'idée c'est que on a besoin d'un enseignant pour savoir comment utiliser nos archives en fait, hein, c'est ça la vraie question.
Donc c'est une enseignante qui est au collège Borély.
Oui.
Elle intervient que sur le collège Borély.
Ah oui, elle est enseignante au collège Borély, mais
par rapport aux archives.
Quand elle vient aux archives, elle travaille pour tout le monde, hein, elle travaille pour tous les. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut évidemment accueillir n'importe quel élève, que ce soit un élève d'une classe élémentaire ou du supérieur. Elle est vraiment là pour amener son expertise, en fait, hein, pour justement créer des outils pédagogiques qui soient adaptés au public. En fait, c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment, sachant qu'un archiviste n'est pas capable de le faire, puisque par définition, il ne sait pas ce que c'est que l'enseignement. Vous voyez, donc voilà, donc c'est très utile, en fait. Hein. Puis, vous savez que les programmes changent, ça sera un peu compliqué pour nous de suivre des fois le rythme. Hein, donc voilà, donc c'est un apport très très utile. Et par exemple, pour les ateliers de 14-18, on a des ateliers pour les classes élémentaires, on a des ateliers pour les classes de collège, on a des ateliers oui, qui sont pour les lycées qui sont adaptés évidemment aux différents niveaux et qui sont liés au programme. C'est très important. C'est-à-dire que, évidemment, hein, un enseignant ne vient pas pour le plaisir de venir visiter les archives départementales. Il y a aussi l'idée que derrière, c'est un apport supplémentaire, hein, c'est une approche différente, c'est une façon autre de faire de l'histoire, par exemple pour un enseignant d'histoire-géographie. Et donc, il faut que ça rentre dans un programme. Oui, et donc, c'est pour ça qu'elle est très importante. Hein, et on est très, très sensible à cette question-là.
Est-ce qu'elle va aussi dans les autres collèges pour partager ça?
Alors, évidemment, bien sûr.
Voilà, voilà. C'est ça.
Oui, en fait, son vrai rôle, c'est d'abord de fabriquer des outils. Hein. C'est vraiment de former les enseignants, vous voyez, de sensibiliser les enseignants. Mais concrètement, en fait, elle a aussi elle participe aussi aux actions. Elle va dans les écoles élémentaires. Elle va le vendredi. Elle est vraiment aux archives départementales. C'est-à-dire qu'elle peut, sur toutes les activités programmer aussi des déplacements. Et elle le fait évidemment. Elle a intérêt d'ailleurs à le faire, parce qu'elle est enseignante en collège, elle a intérêt aussi à voir comment ça marche quand elle fait quelque chose pour une école élémentaire. Hein. C'est pas une professeure des écoles, vous voyez. Elle a intérêt aussi à voir comment ça se passe dans un lycée, elle a intérêt à voir comment ça se passe dans le supérieur. Donc évidemment, elle suit aussi hein, son activité, voilà, et ça se passera très bien, hein, vraiment. Donc elle travaille en fait avec les deux agents du service éducatif, hein, chacun apportant sa pierre, hein, l'une faisant des recherches dans les archives, L'autre, par exemple, accueillir les groupes, parce qu'elles sont tout à fait autonomes, elles sont tout à fait capables d'accueillir des groupes et de faire des ateliers, ayant été formées par cette enseignante. Vous voyez, donc voilà. Donc ça, c'est le principe. Voilà. Alors je disais, donc, il y a des ateliers, il y a des visites, et puis il y a aussi, quelquefois, ce qui est en lien plutôt avec l'action culturelle proprement dite, donc par exemple des lectures d'archi. Hein, vous savez qu'on fait au moins entre 10 et 15 lectures d'archives par an, dont une partie dirigée spécialement vers les publics scolaires. Et donc, évidemment, on essaie de les impliquer là-dedans, dans la mesure où on fait à la fois souvent une lecture qui est commentée après, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, qui est expliquée. C'est-à-dire que des comédiens lisent des documents, puis après, ils sont expliqués par, justement, l'enseignante ou les agents du service éducatif. Hein, donc, et en général, ces lectures, on ne les fait pas aux archives départementales, on les fait directement sur place. On se déplace, en fait. Hein, on va dans les collèges ou dans les lycées pour les réaliser. Voilà, donc ça, c'est le premier aspect. Donc, vous voyez, c'est l'aspect éducatif hein, qui est, je vous dis, très important. Sachant que le service éducatif n'est pas qu'un service éducatif, c'est aussi un service culturel. C'est-à-dire que, concrètement, il participe aussi à l'élaboration de nos expositions, hein, de nos publications. Voilà, donc sachant qu'on essaie de toujours maintenir un niveau. Hein, je vous ai amené un livre ce matin, hein, qui est donc... Madame Fralec en avait parlé le mois dernier donc sur la matière et le bâti, c'est construit et restauré en Haute-Provence hein, de l'Antiquité à nos jours, donc, qui regroupe donc, les actes d'une journée d'études hein, qui avait eu lieu en décembre 2016. Et, donc là, on a 18 auteurs pour 12 contributions. Voilà, donc ça, enfin, je pense que c'est un bel ouvrage. Hein, voilà. Donc, on a sorti en même temps, grâce à notre collaboration avec l'association d'édition 51, donc un autre ouvrage un peu avant. Enfin, c'est, nous, on a été les éditeurs, en fait. Hein, voilà, sachant qu'on n'a rien rédigé. Hein, c'est l'association qui s'occupait de tout ça. Donc, on a collaboré avec eux. On avait fait donc des journées pédagogiques aussi avec eux. Voilà, donc, on est toujours très content de faire des travaux qui sont faits en collaboration, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, chacun amène sa petite pierre, hein, avec des horizons différents, hein, parce qu'il y a même un gypsier hein, qui a participé à la rédaction de cet ouvrage, donc un professionnel. Et puis, quand on a travaillé avec l'association 1051, ben, on est très content, évidemment, de participer à ce genre d'actions, qui sont à la fois des actions éducatives, mais qui sont aussi des actions... le temps passe, oui. On n'arrivera jamais à faire perspective, hein, je pense. On arrive à faire bilan, déjà. Voilà. Mais je reviendrai. Voilà,
ouais. C'est pas...
Mais puis, on fera perspective pour janvier, peut-être.
Voilà.
Mais voilà. Donc, du coup, effectivement, on est toujours très sensible à ces questions. On essaie toujours de multiplier donc, justement, les collaborations, enfin les coopérations avec différents partenaires, avec tous ceux qui s'intéressent aux archives, à l'histoire, hein, qui ont des ambitions pédagogiques, culturelles. Hein, donc voilà. Donc alors des fois c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même très sollicité, hein, vraiment de tous côtés, hein, ça soit de la presse, ça soit des associations, des collectivités hein, qui nous demandent d'intervenir. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile quelquefois, mais on essaye de répondre au mieux à toutes les demandes. Et je crois que depuis maintenant quelques années, on monte vraiment en puissance. Enfin, vous savez, on n'imagine jamais ce qu'on est capable de faire après. Hein, c'est toujours comme ça. Hein. Mm-hmm. On pense qu'on arrive à un niveau de saturation, que c'est pas possible, qu'on pourra pas faire plus. Je parlais tout à l'heure des élèves, hein, 2200. Vraiment, il y a 4 ans, on n'imaginait même pas. Oui, on était à 1300, 1400. Mon Dieu, c'est déjà énorme. Enfin, c'est vraiment... Et en fait, vous voyez, on arrive... absorber assez facilement finalement, hein, puisqu'au fond, quand on fait un atelier, qu'on le fasse pour 3 classes ou pour 10 classes, ça n'a pas... C'est pas plus de travail, vous voyez, c'est pas... Voilà, donc du coup, on essaie justement de travailler au mieux, et puis je rappelle toujours qu'on est gratuit, c'est aussi un élément très important, mm-hmm. Alors le seul problème qui se pose, c'est le transport, hein, c'est, voilà, pour les établissements, mais... on est gratuit et puis on est accueillant. C'est-à-dire que quand les classes viennent et qu'il fait très froid dehors, eh ben, ils peuvent manger dans le service. Ouais. Donc on les autorise à manger parce que c'est vrai que quelquefois les collèges, quand ils viennent de très loin, ils restent la journée en fait et ils profitent d'une matinée aux archives et puis l'après-midi d'une autre visite dans un établissement, dans un musée, un établissement culturel. Et donc voilà. Donc on essaie vraiment de faire tout au mieux pour que ça se passe.
Donc un bilan avec plus d'élèves encore cette année, oui, que l'année précédente. Au niveau des expositions, de tout ce que vous avez, des lectures, de tout ce que vous avez mis en place. Alors, par rapport à l'année précédente.
Alors oui, alors en fait, on a toujours le même niveau d'exposition. On a eu quand même des grosses expositions. Madame Franek, on a parlé. On a eu et d'ailleurs qui est encore un projet en cours autour de Ghana Gobi, autour des mosaïques de Ghana Gobi. Donc là, c'est vraiment un gros travail parce que là, on a travaillé pour le coup, c'est à la fois un don d'archives. Hein, ça part d'un don d'archives de la société qui a restauré dans les années 80. Donc 70 et 80, donc les mosaïques, ça part de là. C'est un travail aussi qu'on a fait avec évidemment le monastère de Ghana Gobi, hein, puisque actuellement, enfin, maintenant on arrive à la fin, mais l'exposition a été montrée donc à Ghana Gobi après avoir été montrée à la cathédrale Saint-Jérôme. Donc ça c'était un gros projet. On a fait à la fois une exposition puis un catalogue qui était beaucoup plus important que d'habitude. D'habitude on se contentait de on va dire entre 20 et 30 pages, et là, on était plutôt 80, vous voyez, donc voilà, donc ça, c'était vraiment le... Donc là, on était contents, c'est une exposition, en plus, qui a eu beaucoup de retours positifs, alors, pour une raison... alors d'abord, je ne parle même pas de l'intérêt du sujet, hein, c'est tout à fait considérable, hein, les mosaïques du Ghana Gobi, sont tout à fait exceptionnelles, voilà. Mais aussi parce qu'on a justement travaillé sur... comment dire, on a proposé en fait un regard sur un lieu du département. Dans nos précédentes expositions à la cathédrale, en fait, on faisait des thèmes. Hein, on a fait les anges, Marie, les oiseaux, etc. Donc, on travaillait par thématique et donc, du coup, on amenait des pièces d'un peu partout du département. Voilà. Et ce qui fait que quand les gens venaient, au fond, ça leur donnait pas l'envie d'aller justement sur les lieux où il y avait ces... Or là, avec Ghana Gobi, évidemment, les gens venaient pour voir l'exposition. Certains découvraient Ghana Gobi. Et donc, évidemment, le coup d'après, c'était d'aller à Ghana Gobi pour aller justement voir le lieu, revoir éventuellement les mosaïques d'une autre façon. Et notre catalogue, d'ailleurs, servait de guide. Vous voyez, donc notre catalogue est parti à une vitesse absolument incroyable. On en avait fait plus qu'à l'habitude. Et on a dû rationner vraiment à la fin, parce qu'on n'en avait plus. Donc, parce que les gens s'en servaient comme un guide. Prenez le catalogue et montez à Ghana Gobi pour comprendre, évidemment, la complexité de ces mosaïques, hein, dont on n'a pas fini, dont l'interprétation n'est pas terminée, hein, parce qu'on peut toujours, évidemment, interpréter d'une manière différente. Mais c'était vraiment, vous voyez, pour le coup, là, il y a eu cet effet-là, quoi, cet effet local, très important, hein, où on a vraiment un point où on peut aller, un endroit où on peut aller, en plus, un endroit magnifique, hein, vous connaissez, évidemment, c'est le plateau, enfin, c'est peut-être un peu chaud des fois durant l'été, mais c'est vraiment la Provence, quoi, hein, c'est vraiment le calme, la Provence, voilà. Donc ça, c'est vrai que du coup, maintenant, on réfléchit justement à notre façon d'aborder ces expositions. Est-ce qu'on doit rester thématique ou est-ce qu'on doit justement être plutôt inscrire notre exposition dans un espace? Alors là, c'était Ghana Gobi, peut-être qu'un espace un peu plus large, ça peut être un itinéraire, vous voyez, mais on est en train de penser à ça. Voilà. Mais ça sera pour perspective, voilà. Mais on y pense beaucoup, en fait. Voilà. Ça, c'est donc la première chose. Après, on est toujours dans la guerre, hein, donc on est dans notre dernière année de guerre, hein, donc 14-18. Donc là, on a posé donc notre exposition à partir de septembre. Elle va durer d'ailleurs jusqu'à au moins novembre de l'année prochaine, puisqu'on va aller jusqu'au 11 novembre, de fête. Donc là, c'est pareil. On sait que cette année, enfin que l'année qui va venir, que ça sera une bonne année en termes de fréquentation. On a eu une très belle année 14-15. Après, on a eu un petit peu... oui, ça s'est un peu calmé, on va dire, hein, puisqu'on était un peu dans le creux. Verdun relance un petit peu en 16 l'intérêt pour la guerre de 14-18. Et là, on sait qu'évidemment, il y aura beaucoup de choses autour de la guerre en 2018. Donc ça redémarre. Et d'ailleurs, on prépare différentes choses hein, qui sont assez fournies. Mais je laisserai Madame Franek en parler en janvier, parce que vraiment, c'est elle qui est en train de préparer ce programme. Donc c'est normal que ce soit elle qui en parle. Mais on est en train de vraiment préparer un gros programme pour l'année 2018, avec des choses qu'on n'a jamais faites et qu'on va proposer aux archives départementales, à la fois pour les scolaires et à la fois pour le public adulte. Voilà. Donc ça, c'est pour 14-18. Sinon, on continue évidemment comment dire, valoriser nos expositions déjà faites, hein, puisqu'on a beaucoup d'expositions maintenant qu'on peut prêter. Et donc on essaie vraiment de travailler à ce sujet. C'est-à-dire que l'idée, c'était, oui, c'est toujours un peu dommage, vous faites une exposition pour quelques mois, vous la posez, vous avez fait un travail énorme, puis après vous rangez tout et puis...
Donc ça devient des expositions itinérantes.
Exactement, voilà. Donc en fait, ça devient des expositions itinérantes. Donc nos expositions, depuis maintenant 3 ans, 4 ans, on les fait de manière qu'elles soient facilement itinérantes. Mmh. On est même en train de réfléchir à des expositions plus anciennes, par exemple sur les papiers d'identité qu'on avait faites en 2012, qui est pas facile. Alors, elle se déplace un peu, mais elle n'est pas facile à déplacer. On se réfléchit à faire une version plus simple sur kakémono, vous voyez, pour qu'elle puisse mieux circuler. Voilà, donc on est en train de penser à tout ça. Parce que vraiment, on voudrait un peu valoriser notre fonds, parce qu'on fait, quand même... Enfin, cette année, comme les années précédentes, on a participé... Alors, on a fait et participé à peu près à 8 expositions, vous voyez. Donc, ce n'est pas rien, quoi.
C'est énorme.
Alors, c'est un peu... des fois, c'est qu'une participation. Hein. Mm-hmm. Par exemple, on participe toujours chaque année à l'exposition qui est organisée... donc, assisteront à l'écomusée de Sisteron durant l'été. Donc là, on le fait toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc là, c'est un petit travail. L'année prochaine, je crois qu'ils veulent travailler sur un thème autour de l'alimentation. Comme nous, on a fait quelque chose là-dessus, on pourra évidemment facilement les aider. On fera notre petite part, oui. Voilà. Donc c'est ça, mais des fois, c'est tout. Vous voyez, voilà. Donc, mais au total, ça fait quand même 7 à 8 expositions chaque année. Donc ce qui est quand même pas mal, hein, pour 12 mois de l'année. Vous voyez, donc, voilà. Donc ça, on essaye de continuer. Alors, ce qui veut dire que chaque année, on sédimente, en fait, hein, beaucoup de sujets. Et donc, évidemment, après, l'idée, c'est de les prêter. Et ça marche très bien. Vraiment, les écoles sont très demandeurs, mais pas seulement. Hein, les collectivités, les communes, hein, les mairies. Par exemple, notre exposition Napoléon 1815, vous voyez, donc le retour de l'île d'Elbe, etc., on l'a prêté cette année. Vous voyez, ça continue. Hein, elle était à Gréoux durant l'été. Donc, les curistes ont pu la découvrir. Voilà, donc, on essaie toujours de faire ça. Hein, c'est vraiment... donc, ça, c'est important. Et ça rentre, évidemment, dans notre bilan hein, chaque année. Puisque c'est un critère qui est proposé par le service interministériel des Archives de France, parce qu'en fait, on a une grille, en fait, hein, on répond à une grille, hein, donc on remplit des cases, et donc il y a cette case-là qui est importante. Voilà. Donc ça, c'est pour les expositions. Les publications, évidemment, sont liées à nos expositions. Donc on a fait une publication, je l'ai dit tout à l'heure, pour Ghana Gobi. On a fait une publication aussi, un petit journal pour la guerre de 14-18, qui là aussi est un peu plus gros que d'habitude. Et puis donc on a publié nos deux ouvrages, donc 1051 et puis donc celui que vous avez entre les mains, voilà, sur la matière et le bâti. Voilà, donc on est assez content de faire ça. Après, on continue à beaucoup travailler aussi sur les fonds d'archives. J'ai parlé tout à l'heure des administrations, etc. Mais il y a aussi tout le travail de numérisation qui est fait. Hein, donc on est, il y a un agent donc qui travaille actuellement sur l'indexation et l'analyse d'images qui ont été numérisées. On a numérisé des dizaines de milliers, hein, donc il est en train de travailler là-dessus. On a numérisé beaucoup aussi de fonds photographiques, plaques de verre, etc. Donc tout ça nous sert évidemment pour notre activité, mais ça peut aussi servir évidemment pour tous les visiteurs des archives, hein, tous les lecteurs qui viennent, qui cherchent des informations sur la guerre ou sur autre chose, hein, sur la vie rurale, etc. Oui, donc on est toujours dans cette idée que, en fait, évidemment, c'est pas pour nous qu'on travaille, hein, c'est d'abord pour le public. Voilà. Et après, l'idée de l'exposition, c'est finalement de valoriser le fond pour faire venir le public, pour lui montrer tout l'intérêt des archives, pour d'abord me faire connaître son histoire, hein, l'histoire de son département, de son cadre de vie, mais aussi pour lui donner envie de venir éventuellement consulter nos archives et les utiliser à des fins soit personnelles, soit collectives. Hein, c'est toujours le principe. Voilà. Donc on est toujours dans cette idée de travail. En fait, voilà.
Alors numériser les archives, c'est bien, mais alors si vous avez déjà des kilomètres,
oui, alors en fait, oui.
Comment vous faites aussi pour numériser le choix de ce que vous numérisez?
Alors en fait, on a comme politique de numériser les fonds iconographiques, donc les images. En fait. Mm-hmm. C'est vraiment... Parce que vous savez le problème d'un archiviste, c'est qu'il a que du papier, des parchemins, donc en fait il a beaucoup d'écrits, mm-hmm, et il a peu d'images. Enfin, il en a beaucoup, mais proportionnellement, c'est très très faible par rapport à... Or, on sait que le public aime les images, en fait. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis en ligne aussi, je n'ai pas parlé, non, cette année, on a mis en ligne le fonds de Lobo. Alors, le fonds de Lobo, c'est un fonds d'images qui concerne la résistance. Alors, c'était en fait, Paul Delobeau était un résistant dans le département, hein, donc, même s'il n'était pas originaire du département, et qui a fait beaucoup de photos, qui était un amateur de photographie, donc, et qui pratiquait la photographie, surtout, qui avait donc acheté un petit appareil photographique et qui a photographié toute sa vie des chantiers de jeunesse, hein, qui était obligatoire sous le régime de Vichy. Vous savez que les jeunes devaient aller faire les chantiers de jeunesse, donc travailler la terre, faire du charbonnage, vendanger, etc. Et puis, après ces chantiers de jeunesse, il est rentré dans la résistance, il a été au Maquis Fort de France, il a fait beaucoup de photographies, et donc on a mis en ligne toutes ces photographies à l'occasion du 8 mai 1942. 45, enfin de l'anniversaire, et donc cette info maintenant qu'on peut consulter sur le site des archives départementales, voilà. Donc ça aussi, vous voyez, la numérisation, ça sert à ça. La numérisation, ça sert évidemment à la diffusion, ça sert à protéger. Une affiche, on a des affiches qui sont très, très fragiles, des affiches par exemple électorales du 19e, c'est un papier de très très mauvaise qualité, très acide, donc qui se détruit vraiment, qui se déchire, donc pour éviter une utilisation directe du document, en fait, on le numérise et après on peut l'utiliser de toutes les façons. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail qui est important aussi. Voilà.
Jean-Christophe Lamadie, c'est déjà l'heure de se quitter. Voilà, bien que vous seriez parti encore plusieurs heures. Voilà. On rappelle le site donc, pour retrouver tous ces éléments intéressants.
Alors c'est www.archive04.fr.
Merci.
Merci
et puis
à vous.
Passez de bonnes fêtes et
merci.
Puis on se retrouve avec plaisir le troisième jeudi de janvier.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.